Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits assez fascinants de solinvictus.pdf.
Bonjour. Oui, un document présenté comme une réédition d'un texte ancien.
Très ancien même, daté de 1495, anno MCDXFE et attribué à Hyacinthe Pilorge, qui aurait été secrétaire de Chateaubriand. Ça pose déjà question.
Tout à fait. Et le contenu est, pour le moins surprenant. C'est un mélange d'histoires alternatives, de technologies qui semblent complètement hors de leur temps et de conflits idéologiques très très forts.
C'est ça. On a cette tension permanente entre ce qui ressemble à du progrès scientifique et un fanatisme religieux intense, incarné par des Galiléens. Oui, ces Galiléens sont vraiment au cœur du conflit. Le texte les oppose à la raison, à la science. D'ailleurs, la citation de Voltaire en exergue donne le ton. Hein. Que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes? Ça nous plonge direct dans le vif du sujet. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est d'explorer un peu tout ça, l'intrigue politique.
Oui, avec ce régicide à Burdigala.
Exactement. Mais aussi ce fanatisme décrit, et puis ces technologies, le cheval de fer de Léonard, le télégraphe électrique, même la voiture sans chevaux.
Sans oublier les allusions à la conquête spatiale qui contextualise la réédition elle-même. C'est assez fou comme mélange.
Commençons par l'intrigue principale, peut-être, l'assassinat du roi et de la reine.
Bon, ça se passe à Burdigala, donc Bordeaux. Le 2 pluviose, date révolutionnaire. L'enquête est confiée à Joseph Fouché.
Ah, Fouché, hein, figure connue.
Voilà, il explore les pistes habituelles, complot anglais, Marat, peut-être. Il est très actif à ce moment-là dans le récit.
Et finalement?
Bah, finalement, tout pointe vers un complot galiléen. Une secte, en fait. On parle même des hachichins, via un certain Julius Alves.
Et des figures locales à Dionysia, c'est ça?
Un archimandrite, Siméon, un prêtre, Nicolaos.
Exactement. Dionysia semble être un bastion de ces Galiléens.
Mais qui sont-ils au juste, ces Galiléens? Le nom fait penser à Galilée, mais...
Mais ça n'a rien à voir, visiblement. Le texte les décrit comme des fondamentalistes, croyance en une terre plate au centre de tout.
Ah oui?
Oui. Et ils rejetteraient la pomme de terre, vue comme un légume du diable.
À Dionysia, ils auraient instauré une sorte de police de la pensée, très stricte.
Avec des châtiments comme la lapidation.
C'est ce que le texte décrit. Et une hostilité farouche à tout ce qui représente le progrès ou la pensée libre, comme l'imprimeur Paragon, dont l'atelier est saccagé.
Donc d'un côté Condorcet, Paragon, la raison, de l'autre les Galiléens et l'obscurantisme.
C'est la ligne de fracture principale. Et des personnages s'en retrouvent pris là-dedans.
Comme ce jeune homme, Hakim Kassar.
Oui, Hakim, un jeune ouvrier d'origine orientale. Les comploteurs essaient de le recruter pour une action suicide, en gros devenir un martyr.
Et il refuse?
Il fait mine d'accepter, mais en fait il se retourne contre eux. Il alerte les autorités grâce à sa cousine, Leïla, et au prod de l'imprimerie, Kirill Ammadé.
Une figure de résistance donc. Et il y a aussi Myriam Mala.
Elle fuit Dionysia. Elle doit épouser le prêtre Nicolaos contre son gré. Elle cherche à échapper à ce contrôle social.
Elle trouve refuge où?
À Lutèce, Paris, chez les Desmoulins. Camille et Lucille, on imagine. Son parcours, c'est la fuite de l'oppression.
Et Marat, alors? Il est mentionné?
Oui, mais son sort est différent de notre histoire. Il est arrêté par Fouché, dans sa baignoire d'ailleurs, mais il meurt en prison. Pas d'assassinat par Charlotte Corday ici.
C'est une réécriture complète, vraiment. Et c'est technologique qui coexiste avec tout ça. Le cheval de fer, la voiture Peugeot, le télégraphe... Comment expliquer ça, Sam?
C'est la grande étrangeté du texte. Ça crée un contraste saisissant. Peut-être pour montrer que le progrès technique, ben, ça n'empêche pas le fanatisme.
Que la modernité matérielle peut très bien cohabiter avec l'archaïsme idéologique.
Voilà, c'est une possibilité. Ça rend le fanatisme décrit encore plus errant, inquiétant. Parce qu'il n'est pas juste une relique du passé. Il est contemporain de ses avancées.
Le texte joue aussi avec l'histoire plus ancienne, Lodwige IX, Aymeric III, les Incas via Coligny.
Oui, toute une réinvention. Lodwige IX qui devient dévot après une insolation en Égypte. Aymeric III qui instaure un sénat et l'égalité pour les Juifs. Les plumes Incas à la mode, ça donne une texture très riche, très particulière à ce monde.
Et des scènes marquantes sont décrites apparemment.
Ah oui, l'arrestation de Marat, Hakim qui doit feindre le repentir dans une cage à secret. Pour espionner les Galiléens, il y a une scène de lapidation évitée de justesse. L'intervention des apostats au temple de Dionysia, c'est assez visuel.
Et comment ça se termine, cette histoire de complot?
Par une répression assez brutale. Le mot utilisé est « désherbage ».
Désherbage.
Oui, une élimination coordonnée des comploteurs galiléens dans tout le royaume. Le télégraphe électrique, justement, permet cette coordination rapide. arrestations massives et la guillotine fonctionnent beaucoup.
Une fin radicale.
Entre la violence ou l'intolérance. La question de la gestion des extrêmes est centrale, et aussi celle de la mémoire. On cite l'empereur Julien l'Apostat comme référence anti-galiléenne, on réécrit le passé. Et il y a cette note finale sur Robespierre, qui est intéressante. Son rôle est ambivalent dans le récit, mais il aurait regretté ce désherbage.
Oui, c'est mentionné. Il aurait dit que c'était une victoire posthume des terroristes.
Ce qui ouvre une réflexion, non ? Sur les conséquences d'une éradication par la force.
Absolument.
Même face à une menace réelle, est-ce que cette méthode ne laisse pas des cicatrices profondes ? Est-ce qu'elle ne finit pas par ressembler à ce qu'elle combat ? C'est une question qui résonne bien au-delà de ce texte.